Écoutez là. On peut. Oui. Voilà la démarche qui se trouve dans la dialectique de la raison pratique. Alors, quelques thèmes de réflexion là-dessus. Alors, d'abord, le rapport entre l'idée de Dieu et l'existence de Dieu. Parce que vous voyez bien que, en fait, Dieu, là, est posé vraiment, comment dire, a priori. La première critique ferme définitivement l'accès à une découverte spéculative et positive de l'existence de Dieu. L'idée de Dieu n'est pas impensable, c'est ce qui est déterminé dans la première critique. Donc c'est un regard négatif sur Dieu. Et parce que cette idée de Dieu n'est pas impensable, la réalité objective de cette idée, c'est-à-dire l'existence de Dieu, n'est pas impossible. Kant part donc de l'idée de Dieu. C'est un fait, elle est en nous, mais ce n'est pas à partir de l'idée de Dieu qu'il va atteindre l'existé de Dieu. Donc je crois que c'est pas juste de dire que c'est à partir de Dieu qu'il atteint l'existé de Dieu. Vous voyez bien que c'est. Il y a un abîme entre les deux. L'idée de Dieu me permet seulement de dire qu'il n'est pas impossible que Dieu existe. Et dans la critique de la raison pure, Kant regarde l'idée de Dieu. Là, il ne regarde pas l'idée de Dieu, il arrive à Dieu en fin de démarche. Il arrive à l'existence de Dieu. Grâce à ce laisser-passer de la raison spéculative, puisque l'idée de Dieu n'est pas impensable, je peux tout faire au niveau pratique, puisque la raison ne voit pas de contradiction, je peux affirmer n'importe quoi au niveau pratique pourvu que ça se tienne. La raison pratique va pouvoir l'affirmer. Mais elle l'atteint non pas à partir de l'idée de Dieu, mais de la loi morale. En fin de compte, c'est bien elle qui est première dans cette démarche, vous voyez? Bon. Maintenant, si on regarde l'intention profonde de Kant, dans la mesure où on peut en juger, si on essaie de faire cette même démarche, mais en sens inverse, on remarque ce que je vous disais tout à l'heure. Que l'existence de Dieu étant la condition sine qua non de la possibilité du souverain bien, si Dieu n'existe pas, le souverain bien n'est pas possible. Et si le souverain bien n'est pas possible, la loi morale est fausse, et donc la raison est trompeuse, la vertu est vaine, l'éducation est erronée. En démontrant que Dieu existe, ne veut-il pas en fin de compte renforcer l'absolu de la loi morale, légitimer les efforts de la vertu, justifier une éducation vertueuse? De fait, dans son dernier ouvrage de philosophie, ah oui, La métaphysique des mœurs, je vous disais tout à l'heure qu'il compose ces deux gros tomes, la doctrine du droit et la doctrine de la vertu. Si vous regardez dans les dernières pages du livre, vous voyez que Dieu est quasiment inexistant. Donc, ça prouve bien qu'il se sert de l'existence de Dieu pour un absolu qui est plus et qui est la loi morale, la vertu. Cela ne montre-t-il pas que Dieu se sert de l'existence de Dieu comme un moyen pour manifester avec plus de force l'absolu de la vertu et du droit? La découverte, on découvre Dieu non plus transcendant, mais comme quelque chose de fondamental pour pouvoir établir la morale, qui elle sera quelque chose d'absolu. Bon, ça, c'est pas la peine de. Ah oui, il me semble, je ne sais pas si on peut le dire, qu'on peut faire un parallélisme entre Kant et Descartes. Parce que Descartes, lui aussi, pose. J'ai posé cette question à Marc Balmès, qui m'a dit que c'était vrai. Pose aussi Dieu comme condition sine qua non. Chez Descartes, Dieu est aussi posé comme condition sine qua non. Il est posé par la raison. Dieu est posé chez Descartes comme condition sine qua non de la possibilité de la science, c'est-à-dire de la vérité de l'évidence rationnelle. Si Dieu n'existe pas, il n'y a pas d'évidence rationnelle. Puisque Dieu existe, la science, c'est le fondement de la science, si vous voulez. Condition sine qua non de la possibilité de la science. Ici, c'est condition sine qua non de la possibilité du souverain bien. Chez Descartes, on trouve le cogito, l'absolu de la conscience de mes opérations intellectuelles. Et ici, on trouve le DBO de Descartes, je dois, qui est l'absolu de la conscience morale, qu'on pourrait dire. Chez Kant, on transforme la volonté aimante en volonté volontaire. Chez Descartes, on transforme l'intelligence en raison. Chez Kant, l'absolu, c'est l'absolu de la vertu, de la morale, sur l'amour. Chez Descartes, c'est l'absolu de la raison sur l'intelligence. D'un côté, on est en face d'un moralisme rationaliste, Kant. De l'autre côté, on est en face d'un rationalisme... Bon, vous voyez. Et en fait, on pourrait faire un parallélisme entre la loi pour Descartes, la loi pour Kant et l'idée pour Descartes. La loi est l'absolu chez Kant, et chez Descartes, Voilà. Si vous avez des questions.
C'est qui les questions ?
Je dis que le souverain bien est gouverné par la loi morale. Est-ce que la loi morale n'est pas plutôt au niveau de vertu qui oblige à réaliser le souverain bien ?
Oui, c'est ça, oui. C'est elle qui... Oui, c'est ça, principe. C'est elle qui m'oblige à faire des actes vertueux.
Pas au niveau de vertu, mais au-delà de la vertu. Parce que la vertu est en nous. Et la loi morale est au-dessus.
Qu'est-ce que la loi morale est dément ?
Quoi ?
Pourquoi il y a une loi ?
Lui, il rassemble tout pour moi. Parce que pour lui, c'est un absolu. C'est quelque chose de un. C'est... La loi morale, ben...
Tu dois faire le bien et éviter le mal. Comment est-ce
qu'il y a des commandements ?
Quoi ? C'est une loi.
Et il la découvre a posteriori. Parce que c'est quelque chose qui s'impose à ta conscience.
Il la découvre a posteriori, mais... Oui. L'existence de Dieu est encore plus à posteriori.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que pour découvrir l'existence de Dieu, il faut d'abord qu'il ait posé la loi morale.
Oui.
Donc la découverte de la loi morale est moins a posteriori que l'existence de Dieu. Mais ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce qu'il découvre effectivement la loi morale ? C'est pas par une induction, est-ce que c'est par une intuition ?
Ça s'impose à lui.
Tout un bien-né accepte la loi morale. C'est une évidence. C'est comme les idées chez Descartes. Là, c'est l'analogie est juste entre les deux. C'est très vrai. Il y a une analogie, c'est que Descartes est beaucoup plus spéculatif autant qu'il veut l'être. Mais en fait, c'est du côté de la connaissance, tandis que Kant, c'est un moraliste. Il n'a rien compris. Voir les injures de Hegel sur Kant, tu vois. Il n'a rien compris à ce que c'est que la spéculation. C'est ce que dit Hegel. Hein, c'est le plus stupide des gens qui n'a rien à la spéculation. Mais alors, il veut sauver la morale. Tu vois, il fallait voir comment Kant vivait. C'est extraordinaire. Sa vie était réglée comme une horloge. Il y avait la promenade du petit chien, la promenade régulièrement, tout. C'est un homme. C'est la morale incarnée. C'est la loi morale incarnée. Le Descartes, c'est la raison incarnée. C'est pas drôle.
C'est pas une exigence de nature. C'est pas une exigence de nature.
Oui, si, c'est ça.
C'est une exigence de nature, c'est pas un des costats a priori.
C'est pas a priori la loi morale. Au contraire, ça s'impose comme un. quelque chose qui...
C'est pas l'a priori, c'est quelque chose au-delà, au fond, d'a priori postériori. C'est très mystérieux.
Est-ce qu'il pose vraiment l'existence de Dieu ou est-ce qu'il pose la possibilité d'existence de Dieu ? Parce que ça repose sur la question de souverain bien est-il possible ? Donc le possible est un seul possible pour démontrer que Dieu existe. Est-ce qu'en fait son argument est couvert ou est-ce que c'est simplement une hypothèse, Dieu peut exister pour que ce premier puisse exister?
Oui, en fait, c'est on n'arrive pas à l'existence de Dieu pour qu'on m'a dit, on arrive à une condition sine qua non. Vous voyez, c'est beaucoup moins fort.
Est-ce que ça a un sens de chercher la cause de quelque chose qui est possible?
Quelque chose qui est nécessairement possible a nécessairement une cause. Donc il y a une certaine nécessité quand même dans l'existence de Dieu.
Si c'est possible, ça n'existe pas, donc ça n'a pas forcément une cause.
C'est le concept de cause que nous avons.
Oui, c'est
le concept de cause est tout à fait différent. C'est ça qu'il faut
c'est une comprendre. Condition.
Nous ne pensons cause tout de suite principe d'existence, principe de devenir, dans le sens aristotélicien. Donc à partir de Octave, la causalité a pris une nouvelle signification. Et là, déjà chez Descartes, chez Kant, alors encore plus. Et la causalité n'est plus qu'un ordre, une relation. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut mieux comprendre. La cause devient une relation, alors que pour Aristote, la cause est un principe. Je ne peux parler de cause que s'il y a deux, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et s'il y a deux sur le même niveau, presque. Alors, au-delà de la cause, vous voyez, il y a la condition sine qua non. Nous, dans le langage aristotélicien, nous mettons la condition sine qua non en dessous de la cause. Tandis que lui, la condition sine qua non est bien plus. Puisque la condition sine qua non, c'est la seule chose qui demeure au-delà de ce que nous pouvons constater. Mais l'au-delà de la constatation, donc du phénomène, ce sera la condition sine qua non. La condition sine qua non demeure la seule manière de voir un petit peu ce qui existe au dedans. Ce qui nous mène à connaissable. C'est pour ça que nous, quand nous traduisons raison sine qua non, nous avons l'impression de diminuer, et lui, c'est pas diminuer. Au contraire, plus.
Est-ce qu'on pourrait préciser un peu ce que c'est le nous-mêmes?
Le nous-mêmes?
Comment se trouve le
nous-mêmes? Lui, Bernard, c'est vous ça.
En fait, c'est parce que dans une réalité, il y a deux aspects d'une réalité. C'est ça que Kant soulignait. C'est que dans ce que nous on appelle une réalité, ce que lui se refuse à employer nous, dans une réalité, pour lui, il y a la chose en tant que connue. Donc c'est en tant qu'elle a des donc c'est ce que lui appelle le phénomène. Et il y a la chose en tant que non connue. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que lui appelle le nous-mêmes. Voilà. Donc le phénomène, c'est ce qui apparaît à nos perceptions, à nos perceptions sensibles. Donc les sens, auxquels l'imagination et l'intelligence sont présentes, mais il faut savoir de quelle manière. Et puis, il y a une espèce de noyau inconnaissable dans la réalité, ce qui dépasse l'aspect phénoménal, donc l'aspect qu'on peut sentir à travers nos sens et qui peut provoquer une connaissance de notre part, qui est le nous-mêmes. Mais c'est
l'au-delà du phénomène.
Oui, c'est ça. C'est ce noyau d'inconnaissable le plus profond de la réalité, en fait. Et que nous, on perce que l'extérieur. Et c'est pour ça que... En fait, on ne connaît pas grand-chose.
Pour retrouver quelque chose, pour retrouver quelque chose d'analogue entre saisie, appréhension et jugement. Quelque chose d'analogue, mais c'est la culture intéressante, c'est de retrouver des distinctions analogues, tout et tout. Alors, le phénomène, c'est ce qui est capable de saisir.
C'est ce qu'on appréhende, le phénomène.
Appréhende, perception.
Et nous-mêmes, c'est ce qui permet de juger.
Et en fait, nous-mêmes, c'est
Le noumen, c'est ce qui permet de dire que le phénomène, c'est pas quelque chose de purement, enfin, de purement relatif à nous, mais quelque chose qui, il y a quand même quelque chose dans la réalité qui s'appelle le phénomène, et ça s'enracine dans le noumen. C'est ce qui, c'est le noumen, en fait, c'est ce que je juge qu'il y a un noumen qui m'apparaît à travers des phénomènes, que j'apprends à travers des phénomènes.
Quelle différence mettriez-vous entre le totiella d'Aristote et le phénomène?
Mais je crois qu'en fait,
oui, parce que ça se ressemble.
Oui, c'est ça. Mais il y a aussi un. Je crois que le gros problème, c'est que c'est la direction qu'il y a, et c'est que le phénomène doit correspondre à notre faculté de juger, tandis que, en fait, l'intelligible est avant qu'on saisisse la réalité. C'est dans des formes à nous, et l'intelligible n'est pas premièrement dans la réalité, mais en nous.
Ce qui est des formes a priori.
Voilà.
Ce qui n'existe pas pour l'instant.
En fait, le phénomène, il est phénomène en tant qu'il correspond à notre faculté de, connaître.
En tant qu'il correspond à la forme de priorité.
C'est ça, notre faculté de connaître qui est attribuée. Tandis que pour, je crois que pour Aristote, en fait, l'intelligible est dans la réalité. Il est propriété de ce qui est.
Là, il est entre les deux. Une correspondance de relation entre, nous-mêmes et la faculté de connaître.
Donc le phénomène n'est pas forcément le même pour moi et pour toi.
Ah non. Il y a une part de même en tant que tu es homme et que je suis homme aussi et qu'on a une faculté de juger qui est à peu près pareille, mais. Oui, mais enfin, il y a des différences. Spécifiquement, c'est la même chose, mais enfin, pas. Spécifiquement, c'est à peu près la même chose. Mais dans l'individu, il y a autant de facultés de juger, donc autant de phénomènes différents pour la même réalité.
Est-ce qu'on peut dire que la condition sine qua non d'une place pour la totalité, c'est le. Explicitement l'utilisation
du nom religieux. Moi, j'ai
jamais dit ça. Non, pose la question.
Hein? Non, parce qu'en fait, le nom religieux, c'est l'infini. Pour Kant, c'est uniquement la limite de ton intelligence qui ne peut pas saisir un rapport de causalité en dehors. En fait, ça n'existe pas. C'est uniquement ton intelligence qui est un peu bornée.
Le nom religieux, c'est l'infini, c'est parce qu'au fond, on ne quitte pas la condition.
Voilà, c'est ça.
On ne peut pas atteindre la condition. Reste dans le conditionnement.
C'est ça. Et le non regastus, c'est uniquement l'impossibilité, la limite de ton intelligence, qui ne peut pas se réaliser dans la conditionnée, mais qu'il voudrait bien à travers le conditionné. Et Kant parle à propos de la preuve cosmologique d'un faux contentement de soi-même devant un ordre infini, devant l'achèvement d'un ordre infini de cause. En fait, c'est ça. Et ce faux contentement, c'est uniquement le fait que la limite de ton intelligence.
Il y a un truc que je n'ai pas très bien pigé, c'était au niveau de la preuve physico-théologique. Parce que il dit, il la réfute, or apparemment ici, il la réutilise pratiquement juste à la fin. Par exemple, l'homme ne veut pas être cause du souverain bien et de la nature, donc il leur faut forcément quelqu'un qui est au-dessus, et puis c'est Dieu. C'est...
Oui, mais dans l'ordre pratique. Mais ton intelligence en elle-même et en tant qu'elle a pour fin la. Enfin, nous, on parlerait d'une connaissance théorétique. Mm-hmm. Dans le sens de la connaissance théorique où tu as la vérité pour finalité, tu ne peux pas parler de ça. Parce que ça t'oblige à revenir à la preuve ontologique et à une certaine chose que tu as niée avant.
J'aimerais, puisque on recherche au point du ontologisme, montrer bien, parce que là il y a quelque chose d'intéressant où on peut être d'accord avec Kant. C'est toujours intéressant de voir le point sur lequel montrer bien la réfutation que Kant à la preuve traditionnelle de l'ontologisme. C'est-à-dire au fond à Descartes. Bon, comment, de fait, Kant critique là cette position de l'ontologie.
En fait, ce qui est important, bon, c'était donc à partir du concept. Donc on a un concept qui implique l'être dans sa compréhension, et à partir de cet être qu'on pense être un prédicat réel, on en déduit la nécessité dans l'existence. Donc ça, c'est l'argument ontologique. Bon, ce que Kant dénie, et je crois qu'on peut être d'accord avec lui, c'est que la nécessité logique n'implique pas du tout la nécessité réelle. Et qu'il y a une différence entre la nécessité qu'il y a entre un sujet et un prédicat qui est en fait une absence de contradiction logique, et le fait que ça postule ou que ça implique une nécessité réelle. Il y a une différence entre deux ordres, il y a l'ordre intentionnel et l'ordre réel, je crois. Et ça, on est obligé de le maintenir, et Kant, bon, on doit être d'accord avec Kant de ce côté-là.
Et Kant a bien saisi quelque chose qui... Et alors c'est intéressant, parce qu'au fond, si on regarde un petit peu ce que Kant ne le connaissait absolument pas, on voit que c'est pas vrai.
Non, je crois pas.
Absolument, c'est complètement ignoré.
Non, parce qu'il en parle aucunement.
Jamais. Et quand il résume toutes les voies d'accès vis-à-vis de Dieu, c'est pas du tout, c'est vol.
Ça part de Descartes. C'est Descartes et après. C'est
Descartes et Vol.
Et Leibniz aussi. Avec le...
Leibniz aussi. Mais au fond, rien du tout avant. Alors ce qui est intéressant, et ça je crois qu'il faut le reconnaître, le mérite de Kant, n'étant pas enraciné dans une philosophie réaliste d'Aristote et de Saint-Thomas, étant dans un contexte, parce qu'au début, hein, le premier Kant, il y a un premier Kant qui
était Wolfien.
Kant, au début de sa vie, c'est très curieux, au début de sa vie, Kant a pris les preuves de Wolf, il les a données. Il les a jamais, il n'a jamais eu le courage, il n'a jamais dit qu'il les rejetait.
Si dans la, il y a un ouvrage qu'il appelle, enfin 18 ans avant la critique de la raison pure, il y a l'unique fondement possible d'une démonstration de l'existence
oui,
de Dieu.
Oui,
et là, il critique Wolf.
Oui, il critique Wolf, mais je dis, c'est la première démonstration. Mm-hmm. Vous voyez, il n'y a pas eu comme Saint-Augustin, si vous voulez, la manière dont il aurait pu dire, eh bien oui, au début de ma vie philosophique, j'ai été... Alors, il critique Wolf, je suis tout à fait d'accord, même, explicitement. Non, mais c'est sa première preuve de l'existence de Dieu. Le début. Tout à fait jeune Kant, il donne des preuves qui sont tout à fait dans le sens de Wolf. Puis il critique Wolf, et alors il essaie, par tous les moyens, de retrouver une possibilité d'une preuve de l'existence de Dieu. Alors, il faut bien vous dire que celle-ci est très à l'ordre du jour. Hein, parce que il y a quelques années, quand le dominicain du Cerf on fait un symposium sur les preuves de l'existence de Dieu. Eh bien, ça commençait presque par un manifeste. Inutile de regarder ce qui est avant Kant, parce que Kant a donné la solution. Donc, nous devons regarder après Kant et ce que Kant dit à propos de Dieu. En gros, c'est ça. Ce n'est pas dit aussi explicitement. Mais pratiquement, c'était comme ça. Alors, ce qui me semble très intéressant, c'est que Kant, de fait, ne connaissant pas Saint Thomas Aristote, redécouvre avec son bon sens moral qu'on ne peut pas passer de l'intelligibilité à l'existence. Il y a un passage, c'est pour ça que certains disent Kant est réaliste. Je sais très bien, d'ailleurs, il dit toujours Kant est réaliste. Vous voyez, il n'identifie pas l'intelligibilité vis-à-vis du réel, le phénomène et nous-mêmes.
C'est ce qu'il dit. Enfin, dans la critique de la preuve ontologique.
C'est très intéressant parce que ça montre tout un aspect de Kant. Et on saisit qu'il a quand même compris qu'il y avait un au-delà de l'intelligibilité qui était sur lui-même. Et là, on est pleinement d'accord avec lui. On ne le dirait pas de la même façon que lui, mais il y a quelque chose où il y a quelque chose de commun. C'est toujours intéressant pour chaque philosophe voir le point sur lequel on peut cheminer avec lui. Et puis voir comment, de fait, après, pour une raison ou pour une autre. Et alors, je crois que c'est l'idéalisme de Kant se retrouve beaucoup plus dans ce que le frère Isaïe soulignait, le parallélisme avec Descartes. Là, on retrouve beaucoup plus. C'est très curieux. C'est dans l'ordre pratique qu'on retrouve plus l'idéalisme. Et c'est dans l'ordre spéculatif où l'on voit qu'il a maintenu quelque chose de lui. Mais on ne peut plus l'atteindre.
il dit textuellement que être n'est évidemment pas un prédicat réel, c'est-à-dire un concept de quelque chose, donc il distingue bien les deux ordres, qui puisse s'ajouter au concept d'une autre. Et il dit aussi après... Car comme les thalers possibles expriment le concept, les thalers réels, l'objet et sa position en lui-même, au cas où celui-ci contiendrait plus que celui-là, mon concept n'exprimerait pas l'objet tout entier, et par conséquent, il n'en serait pas non plus le concept adéquat. Mais je suis plus riche avec 100 thalers réels qu'avec leur simple concept, c'est-à-dire qu'avec leur possibilité. Dans la réalité, en effet, l'objet n'est pas simplement contenu analytiquement dans mon concept, mais il s'ajoute synthétiquement à mon concept, qui est une détermination de mon état.
Sans que... C'est que l'économie a obligé d'être réaliste.
C'est ce qu'il dit après. Nul homme ne saurait, par de simples idées, devenir plus riche de connaissances, pas plus qu'un marchand ne le deviendrait en argent, si, pour augmenter sa fortune, il ajoutait quelques zéros à l'état de sa caisse.
C'est énervé. Là, on trouve le bon sens. Vous voyez, Descartes n'a pas pensé à ça. Sans doute qu'il n'avait pas besoin d'argent, tandis que Kant peut compter. Faisais attention. Alors, y a-t-il encore des questions?
Dieu est découvert par un raisonnement, mais finalement, il est purement pratique. C'est...
Il est utilisé. C'est évidemment, il nous échappe complètement. Mais il est indispensable de poser pour la loi. Et ça, c'est très vrai que du côté de Descartes, c'est la même chose. Il est indispensable de poser Dieu si je veux avoir une science christienne. Et la recherche de la vie.
On y arrive spéculativement pour des raisons pratiques.
Par raison, pas spéculativement, par raison. Logiquement. Une espèce de logique très grande.
C'est quelquefois quand il fait un rapport entre l'existence de Dieu et le problème de la récompense.
Finalement, Dieu est en cause de la nature. Et la nature étant ce qui fournit la satisfaction à mes inclinations sensibles, Dieu, c'est celui qui me rétribue. C'est celui qui est ma récompense.
Oui, plusieurs demandes, on constate qu'ici-bas, les hommes justes sont malheureux.
Hein? Ça, c'est la vertu, toutes les distances qu'il y a entre vertu et bonheur. C'est justement pour ça qu'il dit que la vertu, en tant que phénomène, ta vertu ne peut pas être cause du bonheur.
Il ne donne pas de raison.
Il est comme... Si pas on constate que le juste est malheureux, il faut bien poser un acquis qui, après la mort, il ne pense
pas. À cause de la justice. À cause de la loi morale. La loi morale fait le lien entre ce qu'on voit de la terre et ce qu'on voit de la terre.
Et on comprend comment Dieu...
Comme l'idée fait le point de départ de notre monde et de l'homme.
Et puisque vous nous parliez de Descartes tout à l'heure, alors le rapprochant de Kant, nous revoyons l'importance que vous accordez à la loi morale. Développement progressif devant nous mener vers la découverte de Dieu. Mais je suis un peu embarrassé parce que, à vous entendre, je vois que Kant donnerait à la loi morale l'importance que Descartes aurait donnée à la notion de l'évidence dans la découverte de la vérité. Mais cette loi morale,
je la suppose,
n'est-ce pas, nécessaire pour une existence sociale, un communautaire, je veux dire. Quel serait l'effort de celui-là qui serait seul dans, ou bien comme un cause, par exemple, qui n'aurait pas participé à une vie communautaire? Quel serait alors sa la morale et donc le chemin devant le mener vers la découverte de l'être de Dieu, je veux dire.
Je crois que Kant, là, la loi morale s'impose. Et tout homme, qu'il soit en communauté ou seul, ça s'impose à lui.
Seul aussi.
Ah oui, seul aussi. Quoi ? Ça s'impose à lui. Tout homme, est, en fait, c'est le sens du bien. Le sens du bien et du mal. Le sens du péché. C'est très présent chez Kant.
Il est très moralisant.
Exactement, scrupuleux. Et justement, il veut se sécuriser de ses efforts vertueux parce qu'il sait que ce qui...
Il n'a pas été bien, il n'a pas été connu le bonheur.
Non, pas.
Il
a connu l'amour.
Il a été vertueux, donc scrupuleux. Très bonnes amitiés. C'est très intéressant si vous regardez, vous avez regardé Descartes et Freud. Parce que vous voyez que le point de départ de Freud est kantien. Quand Freud fait la distinction entre le devoir et le
plaisir,
c'est tout à fait kantien comme point de départ. Et ça fait comprendre des quantités de choses de Freud quand vous prenez l'enracinement de Freud dans Kant. Mmh. Je crois que Freud n'aurait pas pu exister si Kant n'avait pas existé, condition sine qua non.
Kant dit quelque part qu'en matière de religion, il faut faire appel à la raison et non à la foi et non à la raison. Comment tu peux expliquer ça?
C'est ce que disait tout à l'heure Perrin.
Non, mais s'il peut bien expliquer, il peut.
Bon, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il dit dans la préface de la raison pure, la préface de la seconde édition, où il dit que il a aboli le savoir au profit de la foi. Bon, ça veut dire que on ne peut pas, pour maintenir justement l'importance d'une morale, l'importance des trois problèmes dont je vous avais parlé au début, de Dieu, de l'immortalité de l'âme et de la liberté, il est obligé de laisser de côté la...
J'avais noté ça quelque part.
Il est obligé de laisser de côté la possibilité pour l'intelligence spéculative de toucher l'existence de Dieu.
Donc ça, je ne sais plus trop. Où est-ce que c'est ça ? En fait, il disait que si on laissait... Bon, je ne trouve plus le texte, mais... Si on laissait l'intelligence spéculative mordre sur la raison pratique, il n'y aurait plus possibilité de garder les trois points de Dieu, de la liberté, de l'immortalité de l'âme. Donc, pour pouvoir les garder, il fallait limiter l'intellect spéculatif dans ses propres limites, c'est-à-dire dans le domaine qui est proprement l'expérience, puisque c'est toujours par le phénomène qui a été effacé, mais par le phénomène que l'intelligence peut se produire, et on a vu que Dieu n'est pas connaissable au niveau phénoménal. Donc c'est pour ça qu'il abolit le savoir pour arriver à retrouver la foi.
Oui, ben, il me semble que pour montrer ce qu'il dit, il use de la raison.
Oui, et ben, mais il n'y a aucun problème.
Dans la critique de la raison pratique, il marque comme fondement la loi morale, qui est quelque chose qui est une conviction. Donc c'est quelque chose qui s'impose, c'est une conviction. Et au service de cette conviction, il se sert du raisonnement, de la logique, pour arriver à une autre conviction qui est l'existence de Dieu. Mais comme disait Bernard, il n'est pas certain que Dieu existe, mais je suis certain que Dieu existe, parce que je suis certain qu'il y a la loi morale. Et comme il y a un lien de nécessité entre la loi morale et Dieu, Dieu, c'est une conviction, comme la loi morale.
C'est une pistis, c'est une conviction intérieure.
Voilà.
C'est une pistis dans le sens... Et c'est vraiment une certitude morale et pas une certitude spéculative.
Voilà, exactement. Donc la foi, au lieu de la...
Ce qu'il fait, c'est qu'il utilise la raison uniquement pour montrer que la raison ne peut pas aller jusqu'au bout. Il sert de la raison pour démolir la portée de la raison.
La raison ne peut pas cheminer... Justement. La raison ne peut pas cheminer seule. Elle est obligée de se servir d'un point de départ qui est la loi morale.
Oui, et l'objectivité de la loi morale sera sans doute donnée uniquement par le point de vue de la foi.
Non, je crois que c'est l'expérience, ça.
Oui, non, mais voyez, parce que je crois que c'est la question qui se pose, hein, et qui était la question posée au point de départ. comment son attitude philosophique est quand même l'attitude d'un philosophe chrétien.
Oui, c'est sûr.
Qui a constamment le souci de montrer les limites de l'esprit, de l'intelligence spéculative et puis de l'intelligence pratique. Montrer les limites pour montrer toute la place de la foi. Et c'est un peu l'inverse, si vous voulez, de saint Anselme, qui montrait que par la foi, au bout d'un certain temps, l'intelligence pouvait tout dire. Alors, c'est jamais Kant qui dit ça. Il ne faut pas oublier, il est protestant.
Et il s'oppose violemment à Luther et à tout le courant luthérien. Qui, il fait partie d'un mouvement qu'on appelle le piétisme.
Oui.
Et qui est en fait une réaction contre le luthéranisme spéculatif qui s'en va dans des élucubrations. Et il retourne, il veut, lui, une pratique de foi. Il ne veut pas des théories, il veut la pratique.
Et c'est pour ça qu'est-ce que là, pour lui, la loi morale, telle que la foi nous la donne, quel serait le rapport avec la pistis, la conviction que j'ai au point de vue humain?
Il faudrait peut-être regarder là toute son éducation intérieure.
Parce que là, c'est là qui sera intéressant, voir dans l'ordre pratique, quel est le lien, parce que je crois que c'était la question posée, frère Germain, c'était la liaison entre le point de vue de la raison pratique et de la foi. Et on le voit beaucoup plus du côté spéculatif, parce que du côté spéculatif, la raison, elle est balayée, quoi.
Justement, est-ce que c'est pas la coutume dont il a parlé pour la preuve ontologique, où il disait que son concept d'un être parfait, il avait de la coutume. Mais pour lui, la coutume, c'est un peu tout le milieu dans lequel il a...
Oui, l'éducation.
C'est le milieu éducatif, c'est la tradition. La tradition.
Si l'expérience est la clé de son système, comment il peut opposer le bonheur et la vertu? Comment le sens du sensible et le raisonnable, en quelque sorte, peuvent-ils être jugés par Dieu?
Ici,
oui.
L'impossibilité.
Comment il approche les concepts de vertu et de bonheur pour qu'ils paraissent antinomiques? Si pour lui, dans son système, c'est quand même l'expérience qui permet d'arriver à cette notion de.
C'est la constatation de quand les gens vertueux sont pas heureux. Job joue beaucoup là-dedans. Connaissant le futur, parfaitement. En Job, c'est ça. C'est un homme vertueux, il est heureux. Alors comme un amour antinomique. Et vous ne pouvez pas, au nom du mal, au nom de la vertu, dire vous serez heureux. Vous ne pensez pas aux paroles de la Vierge Marie, vous ne te rendrez pas heureux nécessairement heureux sur la terre. Et c'est au fond la même chose, c'est cette espèce d'antinomie entre les deux, entre le point de vue de la vertu et du bonheur. Je crois que c'est quand même une constatation. Alors je suis d'accord que ce n'est pas une constatation. Soi-même, on pourra dire que. Par le point de vue de la vertu, on connaîtra un bonheur plus profond, mais prend le bonheur même de son très commune. Les gens heureux, que tout réussit bien. Comment se fait-il que des gens vertueux, tout ne réussit pas bien? Un homme vertueux ne peut jamais avoir d'accident de voiture. Il n'y a jamais un imbécile qui se fait dessus. On devrait aller, puisqu'on est vertueux, à pardonner à divin entre nous. Je crois que c'est dans ce sens-là. Vous voyez, c'est pas du tout ce que dirait, par exemple, quand on parlait ça, dit l'homme vertueux a toujours un refus de bonheur en lui. Il a un refus de bonheur, il a sa conscience en paix. Tandis que celui qui n'est pas vertueux n'est jamais un homme heureux. Parce qu'il n'a pas la conscience en paix. C'est juste l'inverse.